Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité, c'est un trésor à cultiver.
Cultiver la biodiversité, épisode spécial 3. Être paysanne aujourd'hui, les questions de genre dans le monde paysan. Dans cet épisode, on s'éloigne un peu du sujet habituel de notre podcast pour vous parler de quelque chose qui nous tient à cœur et qui est la question de genre dans le monde agricole. Dans notre parcours, on a toutes les deux pu constater que les inégalités de genre sont présentes aussi dans le monde agricole. Si on prend un exemple, on a souvent constaté qu'on retrouve assez peu de femmes dans les instances politiques des organisations agricoles, donc dans les conseils d'administration par exemple, mais on constate qu'il y a beaucoup de femmes qui sont animatrices de ces organisations, donc plutôt dans un rôle de facilitation. Et ça nous a marqué. Cet épisode a été enregistré à l'occasion de la fête du champ à l'assiette, organisée à Rennes le 9 septembre 2023 par la basse-cour. On a enregistré la table ronde qui était organisée sur le sujet, mais on a aussi voulu interroger les visiteurs et visiteuses de la fête pour avoir leur avis. Donc ce que vous allez entendre, c'est un croisement de témoignages des paysannes de la table ronde et puis de citoyens et de citoyennes de passage à la fête. On a enregistré dans différentes conditions, plutôt en extérieur, et donc ne vous étonnez pas s'il y a des différences de qualité au fur et à mesure de l'épisode, mais ça vous donnera aussi une bonne idée de l'ambiance de la fête. Bonne écoute!
Bienvenue à tout le monde à la fête du champ à l'assiette, et à cette table ronde du coup sur les questions de genre dans le monde paysan. Du coup, donc moi je m'appelle Zoé, et je vais animer la table ronde aujourd'hui, mais du coup moi je... J'ai pas grand chose à vous raconter sur le sujet, c'est surtout toutes les autres personnes qui sont là avec moi qui vont vous raconter des choses intéressantes.
Bonjour à tout le monde, moi c'est Thérèse, j'ai été paysanne puisque je suis en retraite depuis 2 ans, en agriculture bio à la fin de la carrière, en système herbager depuis plus longtemps, membre de l'ADAGE d'ailleurs, par ce biais-là, et surtout très militante à la Confédération paysanne. Et j'ai vécu dans ma carrière qui a commencé en 83 des problématiques liées à la place des femmes en agriculture. Hein. J'ai même des fois remué dans les brancards. J'étais double active aussi, j'étais formatrice pendant pratiquement toute ma carrière en CFPPA, notamment CFPPA du Rhône. Mais pas que. Et j'ai participé à la formation des gens qui se reconvertissaient pour s'installer en agriculture paysanne et en agriculture bio surtout, puisque c'était la problématique CFPPA du Rhône. Et j'ai vraiment aussi côtoyé les jeunes en installation, et notamment des femmes, hein, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui s'installent. Et ça m'a apporté beaucoup de choses aussi, et revu que les choses n'avaient pas finalement tant changé que ça. Malheureusement.
Moi, c'est Amand, je suis installée depuis une semaine officiellement. En fait, on a repris une ferme il y a un an et demi avec mon conjoint. On est en système en bovins-laitants, donc je fais partie des ailes de l'adage. Bovins-laitants, on fait du cochon en plein air et une partie verger avec de la transformation, c'est une reconversion. Et voilà, je suis venue parce qu'effectivement, je fais partie des ailes et qu'on m'a demandé de venir.
Bonjour, moi c'est Gwenaëlle, je suis paysanne installée depuis 6 ans sur une ferme en polyculture élevage. Il y a actuellement des bovins lait et des céréales et des vergers. Je suis là aujourd'hui parce que je fais partie des ailes de l'ADAGE aussi. Je fais aussi partie de la Confédération paysanne dans laquelle je suis pas mal investie. Et on a aussi créé une entité qui s'appelle les Travailleuses de la Terre, qui réunit un peu plus largement les personnes qui se reconnaissent là-dedans et qui réfléchit et essaye de proposer des solutions aux problématiques de genre dans l'agriculture paysanne liées à l'analyse du système politique capitaliste et patriarcal.
Bonjour, moi c'est Lucie Rigal, je suis actuellement en changement de ferme. Je suis installée depuis une dizaine d'années sur une ferme en ferme pédagogique et en poule pondeuse, en vent direct. Et là, je passe, peut-être, croisant les doigts, sur une ferme en vache allaitante, juste parce que j'ai envie de rejoindre les ailes, en fait. Voilà, je suis fille de paysans et paysannes, entre autres. Et j'ai fait partie d'Accueil Paysan dans mes engagements, beaucoup, qui accueillent sur les fermes, notamment sur le volet accueil pédagogique et social. Et je suis investie à la Confédération Paysanne et à l'intérieur de ça, au groupe humain-animal, enfin, le groupe de travail, qui réfléchit les relations humain-animal, dont la mort animale fait partie, et de la commission femmes au national. Il y a un groupe femmes national. Et du coup, voilà, on fait des liens. Et je fais partie aussi des 13 aides.
Bonjour, moi c'est Clémentine Comer. Je suis sociologue du genre et des mondes agricoles. Et du coup, j'ai fait un travail de thèse sur le mouvement des femmes en agriculture. Du coup, je me suis intéressée aux usages de la non-mixité et à la variété de ces usages. Donc, j'ai étudié de nombreux groupes qui ressemblent aux aides, aux travailleuses de la terre, mais aussi des groupes femmes qui existent dans les différents syndicats agricoles, etc. Et du coup, voilà, je me suis intéressée à la variété des parcours d'installation, le fait que la catégorie d'agricultrice, ce n'est pas une catégorie homogène, et il y a différents profils à l'intérieur, et donc aussi différents rapports au féminisme et aux manières d'avoir une plateforme de revendication relative à l'égalité professionnelle, donc de montrer que selon les groupes, ce n'était pas les mêmes revendications, les mêmes manières d'envisager le métier et sa place de femme. Ah oui, j'ai une expérience de salarié agricole en chèvrerie et j'ai fait quelques remplacements en bovin lait aussi. Voilà, j'aime bien les vaches.
Quand on interrogeait les visiteurs et les visiteuses de la fête du champ à l'assiette, on commençait par leur demander si ils ou elles avaient une idée du pourcentage de femmes qui sont en responsabilité sur une ferme. En responsabilité, ça veut dire qu'elles sont soit chefs d'exploitation, soit associées légalement.
Ah, j'espère que ça a progressé, je dirais 40-60.
40 femmes, 60 hommes ?
Oui.
Je crois que c'est très faible.
10% ?
Je dirais 5, il me semble qu'il y en a assez peu, malheureusement. Je crois.
Ouais, peut-être, allez, 10% maximum, et encore, je suis pas sûr.
Allez, 20. Un peu plus généreuse, moi.
C'est combien, en vrai ?
70% de l'alimentation dans le monde est faite par des femmes.
Et en France, un tiers des travailleurs et travailleuses de l'agriculture sont des femmes. Donc, tout statut confondu, c'est-à-dire chef d'exploitation, mais aussi salarié agricole,
déclaré à la MSA, quoi.
Et un quart des exploitations sont dirigées par des femmes. Mais avant d'en arriver à ces chiffres, il faut savoir que jusqu'à une période relativement récente, la plupart des femmes qui travaillaient en agriculture n'avaient pas de statut.
Ce qui est énormément cliché, c'est que jusqu'à assez récemment, mine de rien, dans l'histoire, c'était que les femmes conjoints collaborateurs du coup, ne cotisaient pas à la retraite, par exemple, ou étaient pour la société femme au foyer, alors que, enfin, elle faisait un travail d'homme, si on peut, genre les choses comme ça. Et du coup, ça, c'est extrêmement cliché de pas reconnaître ce travail-là, parce que genre féminin et femme d'eux.
Oui, en fait, j'ai ma maman qui aujourd'hui a 92 ans, qui était en ferme. Et en fait, au départ, il y avait que les hommes qui avaient le droit au chéquier. Alors elle a dit, moi je veux bien travailler, mais si j'ai pas le droit au chéquier, ça marchera pas.
Comme quoi la femme avait le droit de travailler, mais n'avait pas le droit de toucher à l'argent, ni de percevoir un salaire. C'était du bénévolat.
On ne demandait jamais l'avis à la femme, c'était toujours l'homme qui décidait en fait. Si un marchand de bestiaux arrivait pour acheter une bête... Il allait pas voir la femme, il allait voir le gars, quoi.
À l'époque de mes parents, c'était l'homme au champ et la femme à la table et à traire les vaches, quoi. Voilà.
Ah, parce que souvent, on a le cliché de la femme d'agriculteur qui se fait pas rémunérer, puis qui aide, voilà. Mais ça tend à évoluer.
Jusque dans les années 80, les femmes n'avaient un statut qu'en vertu de leur situation matrimoniale. Donc c'est parce qu'elles étaient épouses d'eux qu'elles avaient des droits à la sécurité sociale, mais en tant qu'épouse, donc pas en tant que travailleuse reconnue individuellement. Mais le problème de la cotisation, c'est qu'il y avait, enfin, il y a quand même aussi un peu une aversion à la cotisation dans le milieu agricole. Voilà, c'est payer pour avoir des droits sociaux, c'était pas dans les mentalités, et ça reste encore le nerf de la guerre. Donc un agriculteur déjà payé pour lui-même, bon, ça commençait à passer, mais alors payé pour sa femme, non, enfin, je veux dire, s'il y avait des investissements prioritaires à faire, c'était la mécanisation, etc., mais c'était surtout pas cotiser pour que madame ait des droits sociaux, une retraite complémentaire, etc.
Et dans le métier de paysan, c'était vraiment géré, même si je l'ai dit et je le redirai peut-être encore une fois, les femmes étaient là, mais elles étaient invisibles, et c'était doublement invisible. Elles étaient invisibles de l'extérieur, mais aussi invisibles à l'intérieur. Il n'y avait rien qui était organisé pour elles, et elles se taisaient. En fait, l'histoire des retraites, là, les femmes étaient d'accord avec leur mari pour ne pas cotiser pour elles, parce qu'elles avaient compris que ça coûtait trop cher à l'exploitation et qu'il valait mieux utiliser l'argent ailleurs. Donc c'était vraiment un consensus, y compris des femmes. Une petite anecdote. Il y a 30 ans, on a voulu créer un groupe. On faisait la comptabilité à la main, quand j'ai démarré, à la main, et puis l'informatique est arrivée. Et on était dans une association et ça se passait pas bien. On a voulu créer notre groupe de compteurs avec nos logiciels différents les unes et les autres. C'était un groupe de 5 femmes dans notre CUMA. D'hommes, donc. Et j'ai dit à mon mari, qui était administrateur, qui était même au bureau, est-ce qu'on pourrait envisager d'acheter du matériel? À l'époque, on n'avait pas chacun notre ordinateur chez nous. C'était dans les années 80. Vous voyez, c'était le début. Et donc, je dis, est-ce qu'on peut envisager d'acheter le matériel en groupe à la CUMA? Alors, il me dit, bah, oui, je vais en parler. Donc, réunion, et il revient. Et je lui dis, alors, c'est passé? Il me dit, ben non, il trouve que c'est trop important, l'investissement. J'ai dit, ah bon? Ben merde! Ils sont pas gênés d'acheter un tracteur à 100 fois plus cher? Alors là, ça faisait pas un pli, hein, il n'y avait pas besoin de discuter longtemps. Il me dit, ben, va défendre le bout de gras. Je dis, ouais, d'accord, j'y vais. Bah, ça a été vite vu, hein. On a acheté le matériel.
Donc, comment tout ça a évolué? Parce qu'il y a des femmes qui se sont battues, parce qu'elles se sont battues. Je pense que si elles ne s'étaient pas mises en mouvement, justement, dans des groupes femmes ou à l'intérieur de leur syndicat, je ne suis pas sûre que le droit aurait beaucoup évolué. Donc, il y a eu tout un travail de fait par les agricultrices et paysannes pour revendiquer un statut professionnel. Donc avec des premières moutures en 78-80, et puis ensuite, au gré des décennies, voilà, une acquisition de droits professionnels, mais aussi de droits, par exemple, en termes de congé maternité, il y avait un statut différencié pour les femmes agricultrices. Oui, ça. Et donc il y a eu un alignement tendanciel sur les droits au congé maternité, comme ce qui prévaut chez les salariés.
Et donc, grâce au combat des paysannes, de nombreuses choses ont évolué, à la fois d'un point de vue légal, mais aussi dans les mentalités.
Comme dans tous les métiers, il y a des femmes, aujourd'hui il y a des femmes routiers, il y a des femmes chauffeurs de bus, il y a des femmes pilotes d'avion, voilà.
Je dirais que c'est peut-être moins physique avec les travaux, la modernisation. C'est vrai que conduire un tracteur avec un engin derrière, c'est pas plus dur que conduire une voiture.
Là, je travaille dans une ferme et il y a principalement des femmes au final, en maraîchage.
À la tête à l'est, on a Adèle qui élève des chèvres. Mais ça va, elle a trouvé un groupement. C'est pas la galère, bien sûr que si, que c'est aussi la galère, mais pour d'autres raisons. Pas pour des raisons de genre, on va dire.
Moi, ma question suivante, c'était, est-ce que le fait que les femmes qui sont présentes sur les exploitations agricoles, qui gèrent des exploitations agricoles, qu'est-ce que leur présence, elle peut permettre est-ce que ça permet des choses? Est-ce que ça change quelque chose quand il y a des femmes?
C'est récemment, quand les femmes ont commencé à s'installer, à leur nom, que les choses ont changé. Parce que quand une femme s'installe seule sur sa ferme, elle est bien obligée d'adapter plein de choses aux problématiques qu'elle va trouver, parce qu'elle ne peut pas penser qu'il y aura quelqu'un qui viendra l'aider tous les jours. Donc c'est que là que ça commence à changer. Et c'est donc très récent.
Il y a quelque chose de l'ordre de ne pas être feignant, d'être fort, d'être puissant sur une ferme, et aussi des valeurs qui sont portées par le patriarcat, le capitalisme, quoi, de force, valeur, rentabilité, d'avancer. Enfin, et du coup, la transformation peut-être de la pratique agricole sur les fermes avec l'arrivée des femmes. Donc là, c'est juste sur un point technique. Enfin, on a adapté en fait les outils agricoles pour pas se casser le dos, et donc du coup, ça a favorisé aussi la pratique des hommes à l'intérieur de ça. Moi, je suis arrivée sur des fermes, je faisais à 20 ans beaucoup de remplacements agricoles en vaches laitières notamment, et c'était beaucoup de remplacements de mecs qui avaient le dos pété, qui avaient 35, 40 ans, 50, et qui étaient vraiment cassés en deux, quoi. Je parle pas moralement, mentalement, parce que c'était aussi le cas, mais c'était physiquement, en tout cas, ils étaient cassés. Et en fait, l'outil agricole n'était pas adapté en fait à tenir physiquement pour un homme à le soulever des remorques à la main. Voilà. Et nous, quand on arrive, pour le coup, moi, je ne peux pas rivaliser non plus avec certains types sur la ferme à porter des sacs de 50 kilos, quoi. Donc du coup, on essaye de réfléchir à des outils adaptés pour pas se casser le dos. Et en fait, du coup, ils en profitent maintenant très largement, quoi.
Pour moi, il y a aussi un truc important à signifier sur la place des femmes dans les fermes, c'est que l'immense majorité du travail domestique, du travail dit reproductif, donc c'est-à-dire faire les courses, le ménage, la bouffe, gérer les enfants, prendre rendez-vous chez le dentiste, ainsi de suite. Donc tout ce travail reproductif et domestique incombe très généralement aux femmes dans la société. Et je dirais presque encore plus sur les fermes où il y a une énorme perméabilité entre le privé et le professionnel. Et du coup, ce travail domestique qui n'est pas valorisé, qui est invisibilisé la plupart du temps et non reconnu, mais c'est du temps de travail. Et du coup, clairement, en fait, quand on a ce temps de travail-là dans une journée qui fait 24 heures, on ne peut pas mettre le même temps de travail en face dans l'atelier productif qu'il y a un mec qui est complètement déchargé de ces tâches-là. Donc, nécessairement, en fait, les femmes vont essayer de trouver des adaptations parce qu'en fait, avec cette surcharge de travail domestique en plus du travail productif, en fait, on cherche à faire rentrer tout dans une même journée. Donc, essayer de trouver de la plus-value, il y a plein de solutions différentes qui sont mises en place, mais souvent, c'est de trouver de la plus-value via des labels type bio, via de la vente directe. Ça va être d'adapter, faire un investissement pour que la traite, au lieu d'y passer une heure et demie, on n'y passe qu'une heure, et ainsi de suite, pour juste faire rentrer toutes les heures de travail dans la journée. Voilà.
Après, on ira plus précisément sur ce volet-là après, mais il y a une étude faite par Émilie Serpossian en Recherche Action là, qui a étudié du coup l'arrivée de femmes sur des fermes et qui montrait la transformation vers des directions agroécologiques quand les femmes arrivaient sur les fermes. Alors, il faut faire attention avec ce que je viens de dire là, parce que on pourrait aller dans des biais essentialistes de, enfin voilà. Mais on va en revenir tout à l'heure sur cette question. Mais en tout cas, il y a une transformation agroécologique due à l'arrivée de femmes sur les fermes étudiées.
Je voulais juste effectivement être d'accord avec toi sur le côté très viriliste en fait qu'on voit en agriculture. Moi, c'est un des trucs qui m'a choqué l'année dernière, c'est tout est dur. On a repris une ferme laitière, c'était un monsieur qui était tout seul sur sa ferme. Et j'ai pleuré de rage sur des trucs à la con à faire, où je bloque encore aujourd'hui, parce que c'est dur, et c'est vraiment, même pour les mecs, c'est rageant, il y a un côté, il faut bourriner, quoi. Et du coup, le fait d'arriver en tant que femme, et je pense même plus généralement en tant que non-issue du milieu agricole, parce qu'on arrive peut-être avec d'autres cadres, et on se dit, franchement, pourquoi est-ce qu'on se casse le dos, et pourquoi est-ce que ça va être aussi dur ? Ça oblige, enfin, ça va vers des choses plus pratiques, plus fluides, et plus, plus respectueuses aussi du corps des paysans, et des paysannes à fonctionner.
J'ai deux filles, mais elles auront le droit d'aller sur un tracteur si elles ont envie d'aller sur un tracteur.
Je pense que féminiser les métiers liés à l'agriculture peut-être favoriserait peut-être le maintien de certaines exploitations, je ne sais pas, ou le partage des tâches.
Et surtout, je pense, une forme d'agriculture plus responsable de l'environnement. Je pense que les femmes sont plus sensibles à ces sujets long terme que les hommes. Et ce serait une façon justement de donner une nouvelle dimension à l'agriculture.
Je sais qu'il y a a priori quand même quelques chiffres qui ont tendance à dire, enfin, à montrer que les femmes ont plus tendance à se tourner vers le bio, enfin voilà, faire des systèmes qui sont moins problématiques vis-à-vis de l'environnement. Qu'est-ce que vous en pensez ?
On se bataille pour savoir qui va expliquer ça parce que c'est assez complet. j'y vais. Donc, ce que je disais juste avant, c'était qu'il y avait une transformation vers des directions agroécologiques des fermes avec l'arrivée des femmes. C'est complexe à aborder comme question parce qu'on ne veut pas arriver vers l'essentialisme, justement, et de dire, en fait, les femmes, elles sont plus proches de la nature et plus douces, et donc, du coup, il y a une transformation agroécologique. Du coup, vu que nous, on n'est pas de ce féminisme-là, la manière dont on l'explique, et si je me casse, là, l'explication, je refile, voilà. On est éduqué à être femme et les hommes sont éduqués à être hommes. Et du coup, il y a un certain type de valeurs qui sont inculquées dans le ventre de la mère, des bébés à être femme. Donc, on peut aller au supermarché, on voit les rayons roses et les rayons bleus, c'est très clair. Enfin, moi, je dis souvent cet exemple-là parce qu'il est criant, quoi, avec des poupées, de prendre soin d'eux avec les poupées, faire le ménage, prendre soin avec du social et du travail domestique, donc le travail reproductif. Et donc du coup, dans toutes ces valeurs-là, être éduquée femme, il y a toutes les valeurs de care, de soin, de prendre d'avoir une empathie collective, de prendre l'avis du collectif avant même le sien, et du coup le contraire en éducation genrée homme. Et donc toutes ces valeurs-là, en fait, qui sont inculquées, un peu formatage, hein, dès tout petit, ça fait que quand on réfléchit à l'installation agricole, il y a un prisme global et collectif qui est pris en compte, dont l'impact des pesticides sur les autres, les enfants, la manière dont on va gérer, justement, comment je vais gérer et mes enfants. Enfin, voilà. Et du coup, ça va vers un peu des petites structures paysannes en vente directe, où du coup, c'est un peu plus facile de gérer tout ce système-là.
Bon, du coup, Lucie a bien expliqué ce qu'on entendait par le fait qu'on... Enfin, de ce qu'on sous-entend par le genre, que c'est que le genre féminin et le genre masculin, c'est... un processus éducatif, pas essentialiste. En tout cas, on ne part pas sur cette base-là. Et du coup, à chaque genre a été apposé un système de valeurs. Donc, en effet, les femmes, un système de valeurs qui est plus autour du soin. Et chez les hommes, plus des valeurs autour de la force, du courage, de l'abnégation, et ainsi de suite. Et du coup, ça, on... par exemple, nous, aux Travailleuses de la Terre, on travaille pas mal sur ces questions-là. Et en fait, on dit que ça, c'est le système patriarcal qui a divisé les humains en genre féminin et genre masculin, avec des systèmes de valeurs assignés. Et ça a été très très pratique, parce que en fait, ils ont divisé ces systèmes de valeurs en imposant une hiérarchie. Il faut quand même pas déconner. Il y a des valeurs qui comptent plus que d'autres. Et dans cette hiérarchie, on va dire que les valeurs dites masculines ont beaucoup plus été rapportées au domaine de la culture, et les valeurs dites féminines, donc du soin, de l'écoute, de la reproduction et ainsi de suite, ont beaucoup plus été rapprochées du côté de la nature. Et du coup, ça a permis de légitimer l'exploitation en fait gratuite du travail des femmes par la culture, par la nature. Puisque finalement, les hommes étaient plus du côté de la raison, les femmes du côté des sentiments. Et du coup, ça s'est divisé comme ça, d'un point de vue hiérarchique. Et nous, on dit qu'en fait, c'est à peu près la même chose qui s'est passée par rapport au vivant. Il y a eu le même processus de considérer que le vivant, la nature, on va dire en général, n'était pas capable de raisonner, n'était pas capable de défendre, et du coup il fallait plutôt en prendre soin, etc. Du coup, en fait, on pouvait s'autoriser à l'exploiter. Aujourd'hui, on parle d'exploitation agricole, plus beaucoup de fermes d'ailleurs, et ainsi de suite. Et du coup, il y a ce passage-là entre finalement la domination patriarcale que subissent les femmes, qui est en lien, d'un point de vue de l'imaginaire, avec la domination des hommes, des humains, sur la nature. On peut le voir aussi avec les pauvres, les suds, les nords, enfin, on peut le décliner plusieurs manières. Et cette articulation-là, donc ça, c'est un peu pour nous le fonctionnement, on va dire, de la logique patriarcale. Et en fait, ce qui s'est passé récemment, on va dire, pendant les Trente Glorieuses, c'est qu'il y a eu la promesse du monde capitaliste et industriel envers les femmes, de dire on va vous libérer de votre astreinte, de votre travail domestique, par la technologie, nous, cette force capitaliste, va pouvoir vous libérer. Et en fait, ça a été une énorme arnaque. Il n'y a pas eu du tout eu moins de travail, pas du tout, du tout, du tout. Et du coup, il y a eu cette arnaque au moment des Trente Glorieuses, qui a fait émerger des mouvements, qu'on appelle aujourd'hui des mouvements écoféministes, qui ont articulé la critique du capitalisme et du patriarcat, en disant que le capitalisme utilisait finalement le fonctionnement qu'avait instauré le patriarcat de l'exploitation de la nature par les humains, du bénéfice du travail gratuit des femmes par les hommes, du bénéfice du travail des suds vers les nords, et ainsi de suite, quoi. Et pour en arriver à la question de base de pourquoi est-ce que les femmes vont vers l'agroécologie, c'est aussi de se dire, en fait, on se rend compte que ce système capitalo-patriarcal ne peut pas être une réponse, en fait. Ne peut absolument pas être une réponse pour nous, puisque finalement, on est exploité en tant que femme par ce système-là, capitalo-patriarcal. Et du coup, en fait, on va essayer d'en trouver des solutions à l'extérieur, en fait, de ce système. Pour ça, le processus était un petit peu long, mais pour moi, ça explique pas mal pourquoi est-ce qu'en fait... En fait, on ne croit plus aux arnaques du capitalisme, on ne croit plus à l'arnaque du patriarcat, et qu'en fait, il faut qu'on trouve des solutions à l'extérieur. Et du coup, les solutions extérieures, c'est un renversement des valeurs des systèmes patriarcales, et de dire, bah, en fait, le care, le prendre soin, et ainsi de suite, et ben, en fait, c'est ça qu'on a envie de défendre, et c'est ça qui va sauver la planète, et c'est ça qu'on veut faire dans notre quotidien, c'est comme ça qu'on veut élever nos animaux, et ainsi de suite.
Ouais, trop bien. Et juste pour alimenter les facteurs explicatifs de la contribution des femmes au renouvellement des pratiques agricoles, bah, y a aussi une dimension très sociologique qui explique ça. C'est que en fait, les fermes se transmettent quand même encore majoritairement en lignée masculine. Et du coup, en fait, y a des difficultés d'accès des femmes aux outils de production. Tels qu'ils existent, quoi. Et donc, du coup, un moyen de quand même s'installer, c'est de s'installer autrement. Et donc, on va choisir des systèmes qui s'accommodent de plus faibles investissements, d'une plus faible mécanisation, etc. Donc, des systèmes qui dérogent quand même aux normes dominantes de production. Donc, ça, c'est un premier facteur d'explication. Et le deuxième, c'est qu'en fait, ce qu'on voit aussi dans les parcours des femmes, notamment les nouvelles installations, c'est qu'on a des... En fait, le genre, il n'est pas explicatif de tout. Le genre, il faut le corréler à d'autres dimensions sociales, notamment les parcours scolaires, les trajectoires sociales, etc. Et on voit que les femmes qui s'installent aujourd'hui, par exemple, elles ont des niveaux de diplôme relativement élevés. En tout cas, elles cumulent des savoir-faire certifiés agricoles, mais aussi non agricoles. Elles ont eu des expériences salariées dans des centres urbains. Elles ont parfois été très familiarisées avec le mouvement féministe avant de rentrer dans la profession agricole, etc. Donc elles importent aussi... Bah oui, des représentations sociales, un système de valeurs, des enjeux de définition féministe de leur métier, une conception du travail aussi comme une dimension d'engagement politique qui contribue aussi à se poser des questions sur comment on pratique le métier et comment on peut faire autrement. Et donc tout ça, ça renouvelle les pratiques.
Ouais, parce que par ailleurs, on s'arme de beaucoup plus de diplômes pour s'installer et de beaucoup plus d'expérience. On s'installe beaucoup plus tard. Et à presque 10 ans d'écart entre l'installation des hommes et des femmes, il y a un truc où la légitimité à être capable de est moindre. Et donc, il y a une réflexion et une expérience qui est plus importante chez les femmes à l'installation. Et donc, bah, plus tu pratiques et tu réfléchis, plus tu vas vers des systèmes bio et... Non. Non, je rigole. Oui, c'est ce que je pense.
Oui, il y a un effet stratégie un peu aussi où effectivement on a du mal à avoir une place, surtout quand on n'est pas issu du milieu, dans un milieu classique conventionnel. Enfin, aller s'intégrer dans le milieu agricole classique, aller à la CUMA, fréquenter en fait ce milieu, très masculin, il n'est pas forcément facile, on a du mal à y trouver notre place. Et du coup, des fois, c'est aussi une stratégie pour trouver sa place, il faut la faire et inventer d'autres choses. Et du coup, effectivement, aller davantage vers de la vente directe, vers des systèmes bio, vers des systèmes nouveaux, en fait, vers l'innovation, pour pouvoir, en fait, faire notre place à nous, et pas juste aller jouer des coudes dans les réunions de la CUMA.
Oui, je rejoins Amanda, parce que, en fait, du coup, aussi, la reconnaissance, elle n'est plus que dans le milieu agricole, parce qu'elle est tellement difficile pour les femmes, la reconnaissance, dans le milieu agricole, que finalement, aller la chercher ailleurs pour... Parce que, on ne fait pas un métier sans reconnaissance. Enfin, moi, j'envisage pas ça comme ça, en tout cas.
Malgré les évolutions, on l'a vu, les inégalités subsistent. Construction sociale, carrière construite au masculin, inégalités dans le travail reproductif. Et ces inégalités sont souvent invisibilisées ou décrédibilisées quand les femmes et les minorités de genre les verbalisent. Alors pendant la fête du champ à l'assiette, on a demandé aux gens si voir une femme sur un tracteur, ça les choquait.
Grâce à Micha, on n'en voit pas sur un tracteur, ça n'existait pas, c'est comme les œufs de Pâques, des fois on les trouve pas. Et ben en vrai, je crois que j'en ai jamais vu, pourtant je suis quand même paysanne.
Pas dans l'amour et dans le pré par exemple. Ça j'en ai déjà vu. Non, ça me choque pas, mais c'est vrai que c'est... pas forcément, enfin, c'est peut-être pas l'image d'Épinal que je dirais que j'ai dans ma tête. Enfin, moi, j'avais beaucoup d'agriculteurs dans ma famille, mais c'est vrai que je n'avais pas d'agricultrice.
Parce que c'est encore vu comme un métier où justement faut être fort, faut être manuel, il faut savoir manier des gros outils. Donc c'est pas un métier de femme comme on imagine ce que représente la femme encore aujourd'hui dans notre société.
On va dire que le schéma classique, c'est le fiston de la famille qui joue avec des tracteurs, que ça fait rêver les tracteurs et que c'est lui qui reprend la mission de reprendre la ferme.
Ça doit être difficile de creuser sa place dans un monde sûrement régi par les hommes.
Je pense qu'elles sont encore invisibilisées, c'est vrai. Quand on n'a qu'à les voir dans la présence des femmes dans la représentation agricole, que ce soit dans les coopératives, dans les services comme les banques, etc. Il y en a, hein, c'est pas zéro, mais sans doute ça a évolué un peu, mais ça reste très minoritaire. Et en fait, dans les CUMA, n'en parlons pas, quand une femme rentre au bureau d'une CUMA, souvent elle est... Enfin, bon courage, hein, en tout cas. Vraiment bon courage. Il faut oser, quand même, encore aujourd'hui. Mais tant mieux qu'il y en ait, hein, parce que souvent, elles font aussi bouger les choses. Ah oui, CUMA, c'est coopérative, oui. Coopérative d'utilisation de matériel agricole. C'est en fait une coopérative pour le matériel, et on met le matériel en commun, et après, on s'en sert. Mais d'ailleurs, dans les CUMA, il n'y a que des hommes, pratiquement. Hein. Les administrateurs, ce sont des hommes. Les gens au bureau, ce sont majoritairement des hommes. Le président, c'est toujours un homme. Enfin, en tout cas, je ne connais pas de femmes aujourd'hui. Il y en a peut-être, hein, mais... Ça doit vraiment être très, très, très minoritaire en France. Et les salariés, c'est pratiquement que des hommes aussi. Ce sont des chauffeurs, donc c'est pratiquement que des hommes. Donc vous voyez, c'est vraiment un millier d'hommes. Parce que quand on dit 30% des femmes sont actives, après-guerre, même encore quand on s'est installé, moi-même, c'était beaucoup plus que ça. Mais elles étaient complètement invisibles. Elles n'avaient pas de statut très majoritairement. Aujourd'hui, ça s'est quand même amélioré, mais il reste 20% des femmes qui n'ont pas de statut. Il y a sûrement des hommes qui n'ont pas de statut, ou de statut qui leur permet d'accéder à un vrai métier, en fait, enfin, à une reconnaissance, en tout cas. Parce que quand on est conjoint de quelqu'un, mais qu'on travaille toute la journée sur le boulot, je vois pas pourquoi on n'aurait pas de statut. Mais en fait, c'est une réalité encore aujourd'hui. Il y a sûrement des hommes qui n'ont pas de statut, mais c'est beaucoup plus faible, le pourcentage.
Pas sûr de mon chiffre, mais je crois que c'est plus de 50% quand même des femmes installées qui ont le droit du congé maternité ne le prennent pas parce qu'il est quand même pas adapté à la situation agricole. Et sur les retraites, je sais pas si vous savez à peu près la moyenne de retraite d'un paysan à l'heure actuelle, c'est autour de 850 euros. Et pour une paysanne, c'est les chiffres de cette année, parce qu'on a bossé un petit peu dessus, c'est 530.
Et ça, c'est lié au statut que les femmes n'avaient pas ? En fait, les femmes ont très peu cotisé du fait qu'elles n'étaient pas reconnues. Enfin, c'est comme si elles... J'ai dit invisibles, hein, c'est carrément ça. Hein. Complètement invisibles. Pourtant, elles travaillaient sans doute autant que les hommes. Peut-être plus même, parce que souvent, elles ont trois métiers. Hein. La ferme, les enfants et le ménage.
J'ai l'impression qu'on a toutes un stock d'anecdotes énorme. Je crois que Maud Bénézy, qui est la dessinatrice, enfin l'autrice... de la BD qui apparaît derrière nous, disait que les femmes qu'elle a suivies appelaient ça les pépites. Nous, quand on se retrouve avec en général, il y a toujours un moment d'échange sur la dernière qui t'est arrivée, quoi. Et notamment, on a un groupe Signal WhatsApp pour échanger des infos. Et souvent, il y a des moments où, en fait, on vient de se prendre un vent monstrueux ou un acte de sexisme énorme et de rage. On va le partager avec les autres qui vont comprendre en fait toutes les répercussions que ça. Et oui, l'invisibilité, elle est encore énorme. Moi, une anecdote principale, je me suis installée avec mon conjoint. On était deux installations différentes à la chambre d'agriculture. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à suivre les démarches à l'installation, j'y arrivais pas. Et en fait, me suis rendu compte que depuis plusieurs mois, toutes les infos concernant mon installation étaient envoyées sur la boîte mail de mon conjoint. Ah, bon, bah, comment est-ce qu'on peut suivre quelque chose ? Bah, c'est une anecdote, je sais pas s'il y en a qui veulent en dire.
Ouais, bah là, moi, il y a deux personnes qui sont installées en ERL sur ma ferme et elles me disaient l'autre jour j'ai toujours pas les codes pour aller sur notre compte, donc c'est un mec et une nana. Et du coup, elle était là, j'ai toujours pas les codes, et elle a mis, là, ça fait 2 ans qu'ils sont installés, quoi, et elle a toujours pas un code perso, elle doit emprunter les codes de son associé pour pouvoir aller sur les comptes en banque. Et là, j'ai réalisé que moi, j'ai fait ça pendant presque 8 ans.
parce que je recevais pas mes codes, j'avais beau le demander. Enfin, du coup, c'était toujours, je devais noter pour aller sur mon propre compte en banque de la RL, je devais noter Pierrick Rigal. Et du coup, on a acté, en fait, nous, on a que des mecs pro-féministes là avec nous à s'installer, à vivre, etc. Et donc, du coup, on essaie de transformer collectivement un peu nos fermes. Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois que j'allais acheter du matériel agricole, l'entreprise de travaux agricoles arrivait sur la ferme, les chauffeurs, ils s'adressaient, s'il y avait mon frère et moi, ils s'adressaient que à mon frère. Et moi, j'étais comme ça, à côté. Et que des fois, ils s'adressaient au père mon fils qui était animateur sportif. Et du coup, et moi, il disait, bah alors, t'as combien de poules et tout. Et du coup, et lui, il était là en mode, moi, je ne sais pas. Et moi, je répondais à la question, quand même, clairement. Je répondais. Et puis il faisait ah ouais, enfin, et il répondait, il communiait quand même avec le mec qui était à côté de moi. C'était même malaisant pour lui parce qu'il y avait un truc où je vais pas parler à ta femme, ce serait il y avait un peu un truc en mode, il était gêné, il arrivait pas, je lui répondais, et ça arrive régulièrement ce genre de cas quoi. Où du coup on a dit avec mon frère, bon bah pour les médias, pour les entrepreneurs agricoles, pour machin, on donne ton numéro, c'est toi qui y vas. Et tu vas toute seule parce que les médias, mais sur médias, disaient la ferme de Pierrick et sa sœur, la ferme de Pierrick et sa sœur, la ferme. Alors je suis pas la femme d'eux, mais je suis la sœur d'eux. Et du coup, je suis là, putain, on a fait exprès de s'installer, genre ouais. Pas en conjoint, je suis quand même la sœur. Donc bon, bref. Et du coup, ça n'arrête pas, quoi, de faire. C'est continuellement ça. Donc au départ, tu dis, c'est rien, oh, ça va, c'est pas grave. Enfin, je vais pas commencer à. Et ça t'attaque. Et ça te bousille au fur et à mesure, en fait, de trucs de. Mais en fait, je dois. Ça te bousille ta compétence, ta confiance en toi sur beaucoup de choses, quoi. C'est que du coup, tu te dis, je dois pas être compétente, ça doit être chaud. En fait, je dois raconter de la merde. Et du coup, ta légitimité, même si au départ, moi, je suis fille de paysan, et du coup, j'avais confiance en moi sur. Mais en fait, ça te la grignote petit à petit, quoi. Et une fois qu'on vire les numéros de Pierrick et qu'on met les tiens, tu communiques, ils ont pas le choix. Mais du coup, ils te parlent en professionnel, quoi. Ils te serrent la main, au début, ils rigolent un peu, et puis après, ça le fait, quoi. Ils disent, bon, bah, c'est elle. Et en vrai, ça le fait. Et stratagème, mais ouais, c'est tout le temps, quoi. C'est une lutte, c'est un combat, une lutte. On est en lutte continuellement, quoi.
Effectivement, comme Lucie disait, le côté quand on est en installation, c'est pareil, ça fout plein de doutes sur son projet, parce que on est là, on arrive, on a plein d'idées, et puis en fait, on rencontre plein d'interlocuteurs, on visite des fermes, et en fait, le retour que nous font nos interlocuteurs, ils vont forcément influer sur notre projet. Et typiquement, effectivement, il y a le même truc, tu visites une ferme, un couple en l'occurrence. Et en fait, quand on parle technique, le monsieur, il répond au conjoint. Quand on visite la maison, par contre, alors madame, on a visité la maison. Parce que nous, évidemment, c'est la maison qui nous intéresse et pas les vaches. Et à la chambre d'agriculture, moi, le truc qui me gonflait, je voulais faire, du coup, je m'installais au début en vache allaitante et en verger. Et en fait, on me disait, ah oui, vous allez faire du petit fruit et de la caille. Non, je vais pas faire du petit fruit, je vais faire du fruit. C'est du grand fruit, c'est con, hein, c'est des petits fruits et des grands fruits. Mais madame, elle fait des petits fruits, elle fait pas des grands fruits. Les grands fruits, c'est un truc de mec. Et alors les vaches, on n'en parle même pas, effectivement, les femmes qui veulent s'installer seules en vache, en élevage bovin, parce que les femmes, c'est pour les caprins, c'est les moutons, c'est les chèvres, c'est mignon. Et les grosses vaches, c'est un truc de mec. Heureusement, il y en a de plus en plus, effectivement, qui arrivent à s'installer, mais qui racontent aussi les galères avec les banquiers, parce qu'elle ne va pas y arriver. Comment est-ce qu'elle va faire pour un vélage? On n'a pas le bras assez long, on ne va pas savoir contentionner les vaches, parce qu'on est petites, fragiles et mimi, et qu'on n'est pas censé faire ça. Et en fait, c'est vrai que ça finit par grignoter notre confiance en nous. Et heureusement qu'il y a des groupes, effectivement, où on se dit, bon, en fait, il y en a qui y arrivent. Moi aussi, je peux le faire. Et c'est pas parce que, ben voilà, il y a des solutions. On peut s'aider, on va se donner des tuyaux et on va finir par. Mais faut pas se laisser bouffer. Si vous avez votre projet, vous tenez bon jusqu'au bout, même si on vous dit que vous allez faire des pâmes et des moutons.
Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Amande. Et je pense que les groupes, notamment les L, ça nous a toutes aidées. Aussi sur ce truc de confiance en nous, en fait ça grignote, on est attaqué de partout, les portes elles sont énormément ouvertes pour qu'on se tire de ce métier, on n'est pas à notre place, du coup tout est un peu fait pour ça, donc c'est pour ça que moi je considère qu'on est en lutte rien qu'en étant paysanne et en restant installée. Mais en effet ce quotidien, en fait cette invisibilisation, le fait qu'on nous rapetisse notre rôle en permanence, qu'on nous met en doute, ça grignote la légitimité, la confiance. Et les groupes auxquels on fait partie, moi je me rappelle un des premiers trucs qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on était toutes arrivées avec des problématiques qu'on pensait personnelles, de je suis pas assez douée pour ça, je suis nulle là-dessus, en fait c'est peut-être pas ça, nanana, pour se rendre compte qu'en fait toutes on était concernées par les mêmes préoccupations,
Et du coup, à un moment donné, on se dit, bah, si c'est tout, on est concerné, c'est peut-être que le problème, c'est pas de nous juste toutes seules, c'est peut-être un problème systémique. Et là, on commence à avoir prise sur quelque chose. Et on peut produire, on peut essayer d'enclencher un changement, quoi.
Et ces difficultés évoquées par les paysannes lors de la table ronde ont été confirmées par Manu et Lauriane, qui sont toutes les deux en parcours d'installation et qu'on a rencontrées pendant la fête.
C'est chaud pour différentes raisons. D'une part parce que, ben, par exemple, j'ai fait mon parcours 3P à la chambre d'agriculture. Donc c'est chouette, j'ai appris plein de choses et j'ai rencontré des belles personnes. Mais en fait, c'est quand même beaucoup des hommes. Moi, j'ai dû évaluer mon chiffrage. Il y avait quand même une femme, mais les autres, c'était des hommes. Et en plus, c'était des conventionnels. Et clairement, ils ont rigolé du projet. Du coup, c'est pas toujours simple. Après, moi, je m'installe seule. Je suis célibataire. Et du coup, je vois bien que... on me demande pourquoi je m'installe pas avec mon conjoint, en fait. C'est une des premières questions. Voilà. Et après, moi, je m'installe. Du coup, je cherche à m'installer. Donc là, je suis en plein parcours de financement. Et je vois bien que ça bloque pour certaines personnes de m'installer seule et en plus en tant que femme, quoi.
Oui, bah du coup, vu que je suis en parcours d'installation, bah du coup, j'avais mon conseiller de la chambre d'agriculture au téléphone. Parce que notamment, je lui disais que j'étais pressée que le dossier soit transféré parce qu'on est en cours d'acquisition d'un terrain et que notre peur, c'est la SAFER qui préempte. Et si la SAFER est préempte, donc la SAFER, c'est un organisme qui s'occupe de la gestion des terres agricoles, voilà. Et donc, effectivement, qui peut préempter lors de l'achat de terres. C'est pour ça qu'on voulait que le dossier soit transféré en Normandie. Et donc, du coup, il m'a dit au téléphone, mais honnêtement, Lauriane, est-ce que tu penses que la SAFER va préempter ? Parce qu'effectivement, en fait, on a un terrain, bon, bref, qui donne pas forcément envie aux agriculteurs d'autour d'être préemptés. Bah, j'ai dit, bah, en soi, non, mais disons que j'imagine toujours les pires scénarios, quoi, parce que vaut mieux ça. Puis il fait, ah, c'est bien un truc de femme, ça. Donc là, j'étais vraiment sur le cul. J'étais pas du tout préparée. Mais en fait, c'est un mec qui a la cinquantaine et voilà, je pense que, enfin, je pense qu'il a compris que j'étais un peu surprise et puis il a dit, non, mais je rigole, hein. Mais bon, c'est vrai que vous avez un peu tendance à tout anticiper, mais il y a pas besoin, hein, forcément. En gros, bon, j'anticipe trop, quoi. Je suis une femme, donc j'anticipe trop. Puis, pas forcément besoin d'autant anticiper. Ouais, bah, si.
Comme Manu, à qui on souligne son célibat, souvent, les femmes qui s'installent en agriculture sont renvoyées à leur lien aux hommes. Si un couple hétérosexuel s'installe en agriculture, aujourd'hui encore, on va avoir tendance à se dire que le projet va fonctionner, plus que si une femme s'installe seule. Mais évidemment, s'installer en couple induit des inégalités spécifiques.
Sur la question de la charge mentale, Gwenaëlle, tu l'as déjà évoqué tout à l'heure, mais en fait, ce qui est aussi peut-être singulier au milieu agricole, ou en tout cas au monde des indépendants de manière générale, c'est qu'il y a une forte perméabilité entre le domicile, la sphère professionnelle, la sphère privée. Du coup, on travaille chez soi, et ça a beaucoup d'implications, parce que dans la mesure où les tâches parentales et domestiques continuent d'incomber quand même, encore majoritairement aux femmes, ça crée en fait une constante programmation, déprogrammation du travail agricole, puisqu'en fait on va alterner des activités sur la ferme, à la maison, etc. Il y a des activités considérées comme périphériques, où est-ce qu'on les classe quand on lave les côtes, est-ce que c'est du travail professionnel, est-ce que c'est du travail domestique, quand on libère les zones de déplacement sur la ferme qui sont encombrées, là aussi, de quel travail ça relève. Donc, en fait, quand on va chercher le médoc chez le veto, etc., etc., en fait, on a une série comme ça de micro-tâches qui sont mises bout à bout. Et à la fin de la journée, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Bah, en fait, on a du mal à expliquer. C'est pas une tâche qui rentre dans... qui est vue comme une tâche canonique de la production. Bah, j'ai fait mon champ de labour, je sais pas quoi. Et du coup, ça aussi, ça contribue à émietter la conception du travail, alors que toutes ces tâches, elles sont évidemment nécessaires au maintien de l'outil de production et puis au fait que la ferme tourne, quoi. Et je pense qu'en fait, pour rejoindre un peu le propos de Gwenaëlle sur le système capitalisme agro-industriel et l'influence des modèles de production aussi sur la division sexuée du travail, en fait, plus il y a de pression à aller vite sur les fermes et plus on doit faire beaucoup dans un temps restreint, plus l'ordonnancement du social se sclérose. Donc plus, en fait, les tâches
genrées reviennent naturellement au galop. Quand on doit être efficace, eh ben, on redivise. Et du coup, ce que m'ont dit, moi, beaucoup de femmes installées qui avant étaient salariées, voilà, déjà en couple, etc. Elles m'ont dit avant, ouais, on avait trouvé nos équilibres dans le partage des tâches domestiques, parentales, etc. À partir du moment où on s'est installé sur la ferme et que voilà, la priorité c'était dégager le revenu agricole, etc., ça a redivisé complètement les espaces du dedans, du dehors, du productif, du reproductif, etc. Et parce que aussi il y a cette logique de rentabilité qui fait qu'on peut en fait désapprendre nos rôles sociaux, ça suppose du temps.
Sur ce truc du temps, je te rejoindrai, c'est aussi, on est beaucoup, surtout à l'install, on fait tout dans l'urgence, du coup il n'y a pas le temps d'apprendre qu'il faut faire, donc dégenrer les tâches, ça passera peut-être dans 5 ou 6 ans, on verra. Et en fait un des trucs qu'on fait nous avec les L, c'est qu'on intervient en milieu scolaire sur les questions de genre en agriculture. Et une des choses dont on s'est rendu compte très rapidement en intervenant au milieu scolaire, c'est que en fait toute la partie technique de l'agricole était apprise en général pendant les périodes de stage et pas dispensée par les centres de formation. Et du coup, c'est laissé au bon vouloir des maîtres et maîtresses de stage d'apprendre ce qu'ils veulent faire apprendre. Et en général, les mecs montent sur des tracteurs, les filles non. Très majoritairement. Il y a des exceptions, heureusement. Peut-être ça a évolué un peu, c'est cool. Du coup, ça fait, et on l'a fait remonter, et il y a des choses qui avancent aussi dans les centres de formation. Du coup, on a posé le constat que, en fait, à diplôme égal, les compétences acquises étaient inégales, hommes et femmes, déjà. Du coup, sachant que c'est pas proposé par la formation, sachant qu'en général, dans la transmission familiale, on apprend en général plus aux petits garçons à bricoler qu'aux petites filles, ça fait qu'on arrive à l'installation avec une différence de compétences techniques qui est évidemment là. Du coup, cette différence de compétences techniques, elle fait que s'il faut qu'on fasse un mur en parpaing parce qu'il y a un truc qui s'est cassé la figure, s'il faut qu'on aille faire un point de soudure parce que le machin a lâché et tout ça, et ben en fait, il faut apprendre à souder, il faut apprendre à faire un peu de maçonnerie, il faut apprendre à utiliser les outils et ainsi de suite. Et du coup, ça demande du temps. Et vu qu'on est sous pression en permanence de rentabilité, parce qu'on est dans un système de productivité, même en essayant d'être le plus alternatif possible en termes d'agriculture, on est soumis à cette pression-là. Et en fait, le temps, on a beaucoup de mal à le dégager pour te former. Et le réclamer, c'est compliqué aussi au sein des collectifs de travail, que ce soit en couple ou non en couple, de dire, en fait, là, il faut qu'on pose en priorité... Alors qu'il y a le foin, alors que machin. Non, il faut qu'on prenne une demi-journée pour que tu m'apprennes à souder, parce qu'en fait, sinon, je pourrais jamais m'autonomiser, et puis on va continuer comme ça et comme ça. En fait, c'est hyper compliqué de revendiquer ces temps et ces espaces de formation-là. Il y avait ça, et c'est vrai que nous, souvent, c'est un truc qu'on essaye d'en parler de plus en plus par rapport à la travail domestique, travail productif, c'est de pas parler de temps de travail, mais parler de temps de loisirs disponibles, en fait. En fait, à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, combien de temps de loisirs disponibles il reste à chacun, chacune ? Et bien, en fait, en général, c'est souvent assez proche, c'est-à-dire pas grand-chose. Et du coup, ça permet aussi de visibiliser le fait que le travail domestique fait partie du travail. Quoi.
Voilà, je voulais appuyer aussi avec on n'apprend pas la même chose en tant qu'enfant de paysan, homme et femme. Mon frère, il est arrivé avec plus de compétences techniques, quoi, très clairement, et moi, de soins animaux, biberonnage. Après, exactement ce qu'elle dit, j'étais foutue sur le biberonnage et les choses comme ça, salariat, stage, nanana. Et après coup, en plus avec les grossesses ou la grossesse, et ben du coup, tu peux plus, t'as interdiction de faire du tracteur, des outils techniques, des outils de tronçonneuse et tout. Donc, et après t'as l'aide ou machin. Et du coup, pof, tu te refous une rafle de 2 ans par enfant. Tu dois faire de la compta, de la vente et les trucs qui permettent de pas mettre en danger l'enfant qui est dans ton ventre. Et donc, du coup, tu perds en compétences techniques, tu n'as pas le temps d'apprendre ce truc-là, et donc le travail se genre sur la ferme.
On a aussi demandé à Manu si, pour elle, s'installer en tant que personne queer pouvait avoir un impact sur son activité agricole.
Bah, c'est une très bonne question, parce que justement, ça m'a questionnée. Moi, c'est quelque chose qui m'angoisse un peu, en fait, qui me stresse, parce que c'est con, mais si tu fais un super système agricole, que t'es super bon techniquement, n'empêche que si tu vends pas tes produits, bah, ta ferme, elle va couler, en fait. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup questionnée, et je savais pas vers qui me tourner, sachant que je connais personne de queer et d'installé. Si je connais un couple d'agriculteurs, mais c'est quelque chose dont on n'a pas du tout eu l'occasion d'en parler. Mais moi, ça me questionne quand même, surtout à la campagne. Du coup, j'en ai parlé à mon agent immobilier, qui j'achète une ferme. Et je lui ai dit, mais en fait, il faudrait que je te parle un truc, mais comment est-ce que ça se passe dans la ville où je veux m'installer? Est-ce que les gens sont ouverts? Et comme je me sentais bien avec lui, je lui ai demandé, mais est-ce que tu penses qu'il faudrait que je dise ou pas que je sois lesbienne? Et du coup, je me suis sentie hyper con d'ailleurs d'avoir ce type de questionnement. Mais je dis, mais moi, si je vends pas mes produits, comme je cumule pas mal de choses qui peuvent rendre encore plus difficile l'installation, le fait d'être une femme qui s'installe seule, le fait d'être en bio dans une ferme extensive avec des process qui sont différents de la norme, notamment des agneaux d'herbe, pas du tout élevés en bergerie, et développer un système de porc plein air. Je cumule déjà beaucoup, et le fait d'être lesbienne, bah, je me dis que ça commence à faire beaucoup, et ça peut faire une charge déjà sur les épaules, et ça m'inquiétait, donc j'en ai parlé donc, à cet agent immobilier. Et il m'a dit, mais en même temps, est-ce que vous avez envie de vendre à ce type de personnes qui n'accepteraient pas que vous soyez lesbienne? Et donc c'est là où je me suis dit, ah ouais, t'as raison. Et du coup, là maintenant, j'ai réussi à me mettre en accord avec moi-même en me disant, bah, en fait, je vais pas le dire ou ne pas le dire, comme on va pas demander à une personne hétérosexuelle, bah au fait je suis hétéro, je vais juste faire ma vie comme ça, et puis voilà, si je dois présenter ma conjointe, bah je présente ma conjointe.
Et pour lutter contre toutes ces inégalités dans les milieux agricoles, les mobilisations continuent et les paysannes s'organisent à toutes les échelles.
Bah moi c'était une stratégie de m'installer, je ne me suis pas installée en couple, je me suis installée avec mon frère, mais c'était, je l'ai utilisé en tant que stratégie avec lui, parce que j'ai vu que c'était un parcours assez... Je voulais m'installer toute seule dans le sud, mais j'ai dit, bon, non, en fait, ça va être assez compliqué. Et donc, du coup, on a fait stratégie 2. Je le dis parce qu'on veut y aller seul et c'est faut être entouré parce que ça cogne quand même, quoi, l'installation, déjà, et en tant que femme seule, encore plus. Et donc, du coup, on a utilisé le fait, on a joué sur le patriarcat pour pouvoir passer, en fait, sur des trucs où j'allais voir le banquier, ça passait pas. Du coup, boum, Pierrick, il arrivait, ça passait. C'est horrible, mais c'est la réalité, quoi. J'ai demandé la ferme, c'est pas passé. Et du coup, c'est lui qui a été un an après, et boum, on l'a eu. Et donc, du coup, on a joué en fait avec ce paf. Et donc, des fois, en fait, on faisait cette carte-là de quand on revendiquait quelque chose dans le groupement de producteurs et que ça passait pas deux mois, bah, il arrivait, il disait, enfin, c'est un peu chiant, mais en fait, des fois, j'en avais marre de batailler. Et donc, j'ai joué de cette. En fait, d'être associée à un... J'aurais pu combattre plus et dire non, c'est bon, je vais y arriver toute seule. Mais ça m'aurait vraiment attaqué avec, en plus, les enfants, la vie quotidienne, de beaucoup de choses. J'étais épuisée. Et donc, du coup, bah, en tout cas, on a trouvé la manière de se dire on le fait, mais par contre, on le critique. Tant pis, en fait, on va utiliser cette arme-là juste pour fumer les gens. Et puis derrière, on reprend quoi sur la destruction du patriarcat dans notre groupe, dans notre association. Et donc, pas de travail genré. Et donc, on a avancé tout doucement en 12 ans, en 10 ans, comme ça, quoi, sur la ferme. Voilà, c'est un peu moi, mon expérience d'être avec un homme, à travailler avec un homme sur une ferme, quoi. Et c'est de surtout, si on fait quelque chose qui est genré ou quoi qu'est-ce, c'est de se dire, on le fait là une fois, mais on revient tout de suite en arrière parce qu'il ne faut pas que ça devienne une règle. Et que si c'est plus facile parce que c'est lui qui demande, et ben faut pas que ce soit toujours lui qui demande. Et du coup, c'est un peu ponctuellement au compte-gouttes, juste parce que des fois on peut pas et c'est trop violent pour. Mais voilà, moi je trouve que ça peut être. On peut utiliser le fait d'être avec un homme sur une ferme comme une arme aussi de destruction patriarcale. C'est que du coup, il y avait un truc où, peu importe le temps que je mettais, j'allais monter la ferme pédard toute seule, les lecs, l'eau, la plomberie. Et du coup, si j'avais un bug, je lui posais une question. Il répondait, mais s'il venait sur mes chantiers, il se taisait, quoi. C'était vraiment... il venait pour m'aider, il faisait ouvrier, et moi, c'était, je testais. Et si ça foirait, c'est pas grave, je me testais, en fait. Et il n'y a jamais eu de problématique à ce niveau-là sur... il faut juste cadrer vraiment le truc, on nous prend pour des tarés parce qu'on est hyper strict. Mais en fait, ça marche vraiment bien de tout carrer, de dire non, que dalle. En fait, toi, tu gères ton truc, moi, c'est le mien, je prends le temps que je veux et je gère ma technique seule, quoi.
Une fois, on me demandait c'était quoi le conseil qu'on pouvait donner effectivement avant installation. Et il y a l'atelier paysan qui fait un chouette une formation, je crois, de 2 ou 3 mois sur les questions techniques assez générales avant installation. Et c'est vraiment quelque chose que je conseille aux nanas parce qu'effectivement, ça permet d'aller avant s'installer, d'aller apprendre de la soudure, à faire de la charpente, à faire je sais pas ce que ça va être, de l'électricité. Nous, c'est les choses qu'on fait du coup en formation avec les L. Mais on a une journée par-ci, 2 journées par-là, donc c'est vrai qu'on se donne de la confiance, mais on va pas très loin quand même dans nos chantiers. Alors que là, ça permet de se dire, bon bah, j'ai ça à rattraper dans mes compétences. C'est vraiment des compétences agricoles, en fait, dont on parle pas vraiment dans nos formations, mais en fait, on en a besoin tout le temps. Et d'avoir des bases en bricolage, ça fait gagner un temps de fou après en installation et ça permet d'être moins décalé effectivement par rapport à son associé masculin. Si on en a...
Je rajouterais juste que le décalage technique, il a un coût. C'est que les femmes qui sont installées seules, en fait, elles, qui n'ont pas ces compétences-là, elles délèguent à des tiers et elles les payent. Ah, donc en fait, c'est un coût très concret, très réel.
Oui, et puis c'est toujours plus facile de se former à l'extérieur que de se former au sein. Enfin, moi, je vois au sein de mon GAEC, on était 2 femmes et 3 hommes. C'était compliqué. Enfin, c'est exactement ce qu'elles ont dit, je ne veux pas le redire, mais j'ai vécu ça. Nous, on est efficace là-dedans, ne vient pas. J'ai posé des parpaings au début de ma carrière, mais après, je ne l'ai plus fait parce que y a autre chose. Attends, mais il y a urgence, là, il faut aller traire, c'est l'heure de la traite. Forcément, c'est toi qui y vas, quoi. On le dit même plus, c'est tellement évident. Et voilà, ça s'en va comme ça, et puis petit à petit, y a des choses, c'est toujours les mêmes qui les font. Et résultat, moi j'ai une TMS mon associée femme aussi, d'avoir trop fait la traite. Si on avait plus partagé, peut-être que tout le monde en aurait un peu, mais elle est obligée de se faire opérer, moi moins, grâce au fait que je travaillais à mi-temps. Voilà la réalité des fois.
À l'inverse, je trouve que du coup c'est important effectivement de réfléchir à la question du travail genré, pas genré. Et en même temps, des fois le travail genré, enfin la répartition genrée du travail, des fois c'est aussi ce qui peut nous convenir. Et l'important, c'est d'avoir le choix. Mais des fois, c'est aussi ce qui peut nous convenir. Ça a été assez difficile sur l'installation, parce qu'en fait, moi, j'adore la com, j'adore la commercialisation. Et je peux passer des heures dessus, ça ne me pose aucun problème. Mais c'est vrai que du coup, ça me faisait chier, parce que c'était moi qui le faisais, et que en fait, c'était le boulot de femme, et que pour l'instant, monsieur, il était sur le tracteur. Et ça m'a bouffé un moment, parce qu'en plus, on avait ce truc de « il faut être efficace ». Donc du coup, on utilise chacun nos compétences. Mais pour Damien, c'était relou aussi, parce qu'il se tapait les tâches pas marrantes. Et en fait, je trouve que l'important, c'est qu'on mette le doigt sur qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, comment est-ce qu'on veut partager le travail, comment on se partage les tâches ingrates et comment on se partage les tâches sympas, et comment effectivement on est un peu interchangeable, comment on apprend quand même ensemble. Mais sans se mettre la rate au courbouillon, si on aime aussi biberonner les veaux et que monsieur il adore le tracteur, peut-être que des fois, et que nous on déteste, peut-être qu'il ne faut pas se poser de questions. On a une collègue au L, elle déteste le tracteur, et du coup elle délègue, mais du coup elle dit c'est pas parce que je ne sais pas faire. C'est parce que je délègue parce que j'aime, enfin je délègue parce que j'aime pas ça. Et c'est aussi important de dire, c'est pas parce que c'est un choix aussi technique que je fais, ça c'est un truc que je fais pas.
Pendant cet épisode, les paysannes de la table ronde ont plusieurs fois mentionné des groupes dont elles font partie, et notamment le groupe des L. C'est un groupe de femmes au sein de l'association Adage Ille-et-Vilaine qui accompagne des éleveurs et des éleveuses dans la mise en place de systèmes herbagers. Le groupe des L a récemment publié un clip qui s'appelle « L'invisible gronde » pour partager leur vécu.
L'idée du clip, il est arrivé parce que ça faisait déjà quelques années qu'on se retrouvait entre nous, là, au groupe des L, et qu'on avançait, qu'on prenait conscience de nos statuts, de ce que ça permettait, de ce que ça nous astreignait, et ainsi de suite. Et qu'en fait, on a eu envie de le partager, et aussi à nos associés, à nos collègues, à nos amis. Et du coup, y a eu l'idée d'en faire un petit spectacle pour l'AG de notre association, l'Adage. Et le spectacle durait 20 minutes à peu près et terminait par cette chanson qu'on a écrite suite à un travail qu'on a fait avec 2 personnes, une animatrice et une comédienne. Et du coup, on l'a joué. C'était très émouvant quand on l'a joué et en fait un peu les suites de ça, et on s'est dit il y a eu l'envie d'avoir quelque chose d'un peu plus autonome et du coup on s'est dit qu'un clip c'était cool et ça en valait pas mal le monde et que le texte était hyper beau et qu'on avait envie qu'il fasse son chemin quoi.
Ouais, j'avais juste envie de rappeler quelque chose aussi, c'est que la situation des femmes en agriculture c'est quelque chose de particulier parce que on est en campagne, on est isolé, et les femmes, elles sont réparties sur le territoire, mais elles sont pas en ville, en groupe, avec des groupes affinitaires. Elles sont pas entourées, forcément, d'une bande de copines au plus large, enfin, autour de chez elles. Nous, en Ille-et-Vilaine, on est plein, parce qu'on est un département très peuplé, et que nous, on est une grosse vague aussi de militantes anarchistes et féministes à s'être installées en agriculture. Donc, du coup, on a quand même un département particulièrement abondant en termes de meufs des terres quoi, mais les retours en fait des femmes en France qu'on a à la Confédération paysanne entre autres, c'est que, et même pas que quoi, c'est que en fait elles sont seules, isolées,
sur leur ferme, elles ont que leur mec avec elles, elles sont en couple ou pas, ou alors seules dans les campagnes, et donc du coup elles ont besoin de ces réseaux-là aussi parce qu'elles sont complètement isolées, et aussi elles ont besoin qu'on agisse sur place, parce que là on parle d'un patron qui, ou de quelqu'un qui voudrait pas nous donner la parole, mais en fait la réalité c'est qu'il y a de la violence verbale, il y a de la violence physique, il y a de la violence sexiste et sexuelle, très clairement sur le territoire, partout. Et c'est quotidien. Enfin, quand on est féministe et qu'on le dit tout haut comme moi, et ben du coup, toutes les meufs, elles m'appellent et du coup, elles viennent me voir pour me raconter en fait en off ce qui se passe. Et donc, ça n'arrête pas parce que vu que j'ai la casquette féministe et que je me montre et que elles, certaines n'osent pas, et ben du coup, les paysannes du territoire en Bretagne ou ailleurs viennent me voir pour me dire il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Et en fait, ça n'arrête pas. Et c'est tout le temps. Et donc du coup, et moi j'ai envie de le dire aussi, rapprochez-vous, installez-vous, rapprochez-vous de groupes de femmes dans ce cadre-là, et c'est pour ça que ces réseaux de femmes qui réfléchissent d'ailleurs au niveau national à faire des groupes d'action directs, parce que la justice est trop longue, et qu'à un moment donné on a envie de dégager les mecs qui font des trucs sur les fermes directement, donc on réfléchit à un groupe qui pourrait agir là, et en Ille-et-Vilaine aussi. Mais du coup c'est aussi ça, parce qu'on n'a pas évoqué cette question-là d'aujourd'hui, et je pense que c'est très important de le dire et de l'évoquer et de trouver des solutions collectives pour pouvoir que ça cesse. Et si c'est pas par la justice ou par nos pancartes, ce sera par de l'action de force s'il le faut.
Et deux intervenantes ont aussi participé à l'organisation des rencontres des travailleuses de la terre.
Ok, donc les travailleuses de la terre, on a rassemblé, on n'a pas voulu rassembler que des femmes qui étaient déclarées à la MSA au titre de exploitante à titre principal ou alors conjointe collaboratrice, enfin déclarée à la MSA. On a voulu rassembler aussi les salariés, les femmes qui étaient paysannes vivrières et aussi les bûcheronnes et les travailleuses de la mer, mais on n'avait pas. Et donc on a voulu rassembler tout ce monde là parce qu'on sait que les femmes s'installent aussi plus tard en agriculture et du coup on est beaucoup à être salarié pendant un long temps et que quand t'as la double casquette patron mec et que t'es salarié, bah tu t'en prends plein la gueule aussi quoi. Donc du coup on a fait une rencontre des travailleuses de la terre, on a fait, donc il y avait une travailleuse de la terre, une rencontre des travailleuses de la terre qui se passait en Drôme en même temps que ce qui se passait ici en Bretagne. Et donc, on a fait des groupes d'auto-formation technique, donc en soudure, bûcheronnage, électricité, abattage de poules et des coupes. Et à la suite de ça, on a voulu se rencontrer sur de l'atelier technique parce que on voulait pas se rencontrer sur un ordre intellectuel, de se cliver sur des manières de penser le féminisme ou de penser la lutte ou de penser tout court. Et du coup, vu qu'on est paysanne et qu'on se rencontre en général par le travail, on a travaillé ensemble le matin. On s'est entendu et après on s'est rencontré là-dessus. Et après on a abordé des thématiques ensemble autour du travail reproductif, socialité et travail domestique, l'invisibilisation des femmes dans les institutions, les voisins, les médias, etc. Vers une agriculture familiale non hétéronormative, comment partir d'un modèle de solidarité familiale paysan pour aller vers un modèle de solidarité en collectif ou sur un territoire, place des femmes dans les luttes paysannes, comment envahir les espaces, réappropriation des savoirs techniques, donc ça c'est ce qu'on a fait le matin, et on a réfléchi à ça aussi théoriquement, la place et rapport de notre corps dans le travail, le rendement en exploitation, où nous situons-nous dans l'agriculture paysanne respectueuse du vivant et des animaux. On a repensé en fait le système de rentabilité à l'intérieur de ça. La grande thématique qu'on pose là aussi, c'est justement cette agriculture non hétéronormative, parce qu'on a envie de recréer des systèmes d'agriculture familiale, mais non basés autour du travail genré et de familles hétéros, de grands-parents à petits-enfants, parce que c'est plus comme ça qu'on se réinstalle, et c'est dire comment on fait des solidarités sur les territoires.
Mais du coup, donc les rencontres des travailleuses de la terre, ça a eu lieu à l'automne dernier, et il y en aura d'autres ?
Ouais, on espère.
Ok.
J'avais juste envie de rajouter qu'on vous a listé tout ce qui est dur en milieu agricole, et je trouve ça un peu plombant, mais moi je suis pas du tout le genre sacrificiel comme meuf, hein. Si c'était dur je me serais barrée depuis longtemps, clairement. Mais la réalité c'est qu'avec nos groupes là, de mecs, de meufs sur le territoire, on défonce très clairement dans la pratique le capitalisme patriarcat, et c'est génial, et ça marche. C'est que du coup, on est bien sur nos fermes, on se marre tout le temps, et dès que quelqu'un nous fait chier, on se met en action. Donc ça fonctionne vraiment, et on est super heureuse avec nos animaux, sur nos territoires. C'est vraiment chouette, ça veut dire en fait que ce qu'on dit, c'est pas déconnant, c'est super. Voilà.
Trop bien. Merci pour ce mot de la fin, très positif. Voilà, merci beaucoup à toutes nos intervenantes.
Merci beaucoup aux paysannes qui ont participé à la table ronde. Merci à
Nadine,
Jacques,
Cécilia,
Hélène,
Guillaume,
Gaëtan,
Rémi,
Alexandre,
Catherine,
Laurent,
Brigitte,
Jean-Luc,
Vincent,
Servane,
Lauriane,
Manu,
d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci beaucoup à Zoé pour l'animation de la table ronde et pour son aide précieuse à la réalisation de cet épisode. Et enfin, merci à Estelle pour l'enregistrement des micro-trottoirs. On espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous envoyer vos remarques ou vos questions sur les réseaux sociaux. On est sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Ou par mail, on vous met notre adresse mail dans la description. À bientôt pour un nouvel épisode de Cultiver la biodiversité.